Ginette Fleur Adandé. Merci, à tout à l'heure.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 20 2021. Bonjour, bienvenue. On commence par les États-Unis. Les démocrates ont transmis lundi soir au Sénat américain l'acte d'accusation de Donald Trump, marquant l'ouverture officielle de son procès historique en destitution pour incitation à l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées par ses partisans sous ce même dôme du Capitole le 6 janvier. Dès aujourd'hui, le Sénat va convoquer officiellement l'ex-président américain pour ce procès qui ne démarrera toutefois que le 9 février. Les sénateurs prêteront serment également ce mardi pour devenir jurés dans cette procédure doublement historique. Donald Trump est le premier président des États-Unis à tomber deux fois sous le coup d'un impeachment et ce sera le premier à être jugé après avoir quitté la Maison-Blanche. Une majorité écrasante de sénateurs américains ont confirmé hier Janet Yellen à la tête du secrétariat au Trésor, faisant d'elle la première femme à occuper le poste et lui permettant de travailler rapidement avec le Congrès sur un nouveau plan de relance économique. Seuls des élus républicains ont affiché leur opposition, alors que plusieurs d'entre eux avaient fait part de leurs préoccupations à propos de la volonté du président démocrate Joe Biden de déployer un plan de relance de 1900 milliards de dollars pour compenser les effets économiques de l'épidémie de coronavirus. En RDC, les députés sont convoqués aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Kinshasa pour l'examen de la motion de censure contre le gouvernement et son premier ministre signée par une majorité de députés. La motion de censure a été signée par 301 députés sur 500, se réclamant de l'union sacrée de la nation, une nouvelle majorité parlementaire voulue depuis décembre par le président Tshisekedi pour écarter l'ancienne majorité favorable à Joseph Kabila. Proche de M. Kabila, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a quitté dimanche Kinshasa pour Lubumbashi où il a rencontré hier l'ancien président, lui-même replié dans son fief du Katanga depuis mi-décembre selon son entourage. Les forces centrafricaines ont attaqué les rebelles qui tentent d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra, tuant 44 d'entre eux selon le gouvernement qui affirme être à l'offensive. Le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Kazaghi a également fait savoir que la ville de Boda, située à 124 km de Bangui, a été reprise par les autorités. Depuis le début de l'offensive en décembre, les rebelles de la CPC cherchent, selon l'ONU, à asphyxier Bangui, la capitale, en coupant les trois principales routes qui y mènent. Six membres du gouvernement malien de transition ont entamé lundi une visite de deux jours à Kidal, la première au niveau ministériel dans ce bastion des ex-rebelles indépendantistes Touareg depuis le coup d'État militaire d'août dernier. Kidal est le fief de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, principale coalition d'anciens rebelles indépendantistes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012. Sept enfants et adultes ont été enlevés dans un orphelinat près d'Abuja, la capitale du Nigeria, par des criminels qui ont réclamé une importante rançon pour leur libération. Les criminels ont demandé une rançon de 10 millions de naira, soit 26 000 dollars pour la libération des enfants qui ont entre 9 et 14 ans. Les enlèvements contre rançon sont très fréquents au Nigeria, en particulier dans le sud du pays riche en pétrole et dans le nord-ouest, où des centaines de personnes de toutes catégories sociales et de toutes origines ont été enlevées ces dernières années. De nouveaux heurts ont éclaté lundi soir entre policiers et protestataires à Belta, en Tunisie, après le décès d'un jeune blessé la semaine dernière par une cartouche de gaz lacrymogène lors d'une manifestation. L'armée a été déployée dans la ville, dans le centre de la Tunisie, devant les institutions de l'État pour empêcher tout éventuel débordement. Depuis la mi-janvier, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes pour réclamer une meilleure politique sociale et la libération de centaines de protestataires interpellés par la police après les heures. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal, Guinée, 10 ans de prison requis contre un opposant au président Condé, un réseau de trafiquants d'armes démantelé au Niger. Et après les sports, direction le Bénin, avec la dernière ligne droite vers l'élection présidentielle, l'opposition béninoise est plus que jamais divisée. Nous aurons le reportage de notre correspondante au Bénin, Ginette Fleur Adandé. Jean-Roger Billon à ce micro. On revient dans un instant.
La suite de nos informations en ce mardi 26 janvier 2021. Le parquet guinéen a requis lundi 10 ans de prison ferme contre Mamadi Condé, un opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et incitation à la révolte. Abdourahman Dia.
Le procureur de Dixin, en quartier de la banlieue de Conakry, a également réclamé une amende de 300 millions de francs guinéens, soit environ 27 000 euros, à l'encontre de Mamadi Condé, plus connu en Guinée sous le nom de Madik Sans Frontières. Ce jeune opposant et blogueur vivant alternativement en Guinée et au Canada et proche de Sellou d'Alain Diallo a été arrêté le 26 novembre dernier. Il est depuis écroué à la prison civile de Conakry. Il est poursuivi pour menaces, injures, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte, après avoir publié des textes contre un troisième mandat d'Alpha Condé et des vidéos critiques contre le pouvoir. Je ne reconnais pas les faits qu'on me reproche. J'ai fait beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. J'ai fait ces vidéos juste pour donner mon opinion, a-t-il dit lundi à la barre du tribunal. Je demande pardon au président Alpha Condé s'il estime qu'il a été vexé par mes écrits ou autres productions, a-t-il ajouté. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février.
Au Niger, les forces de l'ordre ont démantelé la semaine dernière un réseau de trafic d'armes dans la région de Tawa, au centre-nord du pays. Il s'agit d'armes collectives et individuelles et d'importantes munitions découvertes chez des individus dans une zone proche de la frontière malienne. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
La saisie a été opérée par la Légion numéro 4 de la Gendarmerie nationale de Tawa, partie vérifier des informations faisant état de la présence d'un marché de vente d'armes et de munitions dans la localité de Kaou, département de Tintabaraden, un département sous état d'urgence du fait des attaques des groupes djihadistes du Nord Mali. Commandant Yahya Massalaki, porte-parole de la Gendarmerie nationale.
6 individus ont été interpellés, une arme collective calibre 12-7, 11 fusils d'assaut AK-47, un PA, 703 cartouches de 702 mm, 27 cartouches de PA, un chargeur de PA. En dehors de ces armes, il faut dire qu'il y a 177 bidons de 25 litres d'essence saisis. Les armes proviennent de la Libye et du Nord Mali.
Cette saisie d'armes vient s'ajouter à une longue série de saisies de divers types de drogues et de carburants ces derniers mois dans le pays. La dernière en date est celle de 155 briques de chanvre indien dissimulées dans une ambulance, toujours dans la région de Tawa. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Un Kenyan a été extradé hier vers les États-Unis pour faire face à des accusations de trafic de cornes de rhinocéros et d'ivoire d'éléphant d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il risque une lourde peine de prison, le point avec Michel Joseph.
Mansour Mohamed Sourour, 60 ans, a été arrêté au port de Mombasa au Kenya en juillet 2020 à son arrivée du Yémen. Il est accusé d'avoir été impliqué dans le braconnage de cornes de plus de 35 rhinocéros et de l'ivoire d'une centaine d'éléphants. Selon Audrey Strauss, procureur fédéral de Manhattan, Mansour Mohamed Sourour est accusé de trafic de faune sauvage, blanchiment d'argent et trafic d'héroïne. Ces deux derniers délits l'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. Deux de ses complices présumés ont déjà été extradés aux États-Unis. Le Libérien Mwazu Kroma en juin 2020 et le Guinéen Amara Sherif en avril 2020. Un autre suspect d'origine kenyane est toujours en cavale, selon la procureure. Ils sont tous accusés d'avoir, entre décembre 2012 et mai 2019, vendu quelque 10 tonnes d'ivoire et 190 kilos de cornes de rhinocéros, d'une valeur marchande évaluée à plus de 7 millions de dollars, à des acheteurs résidant aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Ils envoyaient la marchandise cachée dans des œuvres d'art africaines, masques ou statues, selon les enquêteurs new-yorkais.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le gouvernement togolais a lancé un appel d'offres allant jusqu'au 16 février pour la construction d'un institut de formation dédié aux énergies renouvelables à Lomé, rapporte le magazine Togo First. Cette école permettra au Togo de consolider la promotion des énergies renouvelables dans le solaire. Le pays, qui veut porter à 50% la part du renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030, disposera ainsi de ressources humaines qualifiées dans ce secteur en pleine expansion. En Libye, la production pétrolière atteint actuellement 1,224 million de barils par jour, soit 10 fois plus que la moyenne de 121 000 barils par jour enregistrée au troisième trimestre de 2020 avant l'accord de cesser le feu. Le secteur continue de souffrir de la vétusté et des dommages des infrastructures dus à la guerre. Tripoli recherche d'ailleurs l'appui des compagnies pétrolières étrangères pour l'aider à réparer ses infrastructures. Pour terminer, l'approvisionnement en brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole devrait diminuer d'environ 400 000 barils par jour en janvier, avec de fortes réductions de l'offre attendue de la Libye, du Nigeria et de l'Irak. Mais l'OPEP et ses alliés ont aussi accepté d'augmenter la production de 500 000 barils par jour ce mois-ci pour compenser les énormes réductions effectuées l'an dernier.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les premières affiches des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations sont connues. Après les victoires des deux Congo hier sur la Libye et le Niger, les Diables Rouges joueront le Mali et la RDC croise le chemin du pays hôte, le Cameroun. De Yaoundé, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Les Léopards de la RDC s'invitent en quart de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec les statuts de leader du groupe B après leur victoire 2-1 sur le Niger. Objectif atteint, confie Pamphile Miayo, sélectionneur adjoint de la RDC, aux commandes des Léopards à l'absence de Ibengué, testé positif à la COVID-19.
L'objectif premier était de se qualifier pour passer à l'étape suivante et voilà, c'est ce qui a été réalisé.
En quart de finale, les Léopards feront face aux Lions Indomptables du Cameroun, pas facile à jouer avec leur statut de pays hôte malgré qu'ils ont fini deuxième du groupe A derrière les Mali, un adversaire qu'il faut jouer à fond, explique Dark Kabangou, qui a ouvert son compteur but face au Niger.
On sera face à eux, on va se battre, on va se donner à fond parce que nous savons que c'est un match qui sera pas facile.
Avec cette qualification, Joël Béa, attaquant du tout-puissant Gleber Mazembe, espère que la RDC va récupérer ses joueurs frappés des Covid-19.
C'est vrai qu'il y a eu quelques forfaits avec le cas de Covid, mais qui reviendront certainement parmi nous bientôt. Là.
Pour ce premier tour, la RDC termine cette phase avec un total de 4 buts marqués contre 2 encaissés, 2 victoires et 1 nil. 7 points sur les 9 possibles. Yaoundé, Valdo Simo Yamba pour VOA Afrique.
Le groupe C désire se qualifier pour les quarts ce soir. Le leader de la poule, le Maroc, qui compte 4 points, joue le dernier, l'Ouganda, qui n'a qu'une seule unité à son compteur. Le Togo, deuxième avec 3 points, fera face au Rwanda, 2 points. Ici aux États-Unis, le club d'Atlanta United, évoluant en championnat nord-américain de football, a annoncé avoir recruté l'attaquant argentin Lisandro Lopez. Passé par le FC Porto et l'Olympique Lyonnais, âgé de 37 ans, Lopez portait depuis 2016 les couleurs du Racing Club, club de première division argentine, formation où il a démarré sa carrière professionnelle en 2003. À Atlanta, il jouera sous les ordres de son ancien équipier en sélection argentine, Gabriel Heinze, qui a été nommé entraîneur en décembre dernier, afin de ramener la franchise au sommet de la MLS, dont elle a remporté le championnat en 2018. Et pour finir, les sportifs participants aux Jeux Olympiques de Tokyo dans 6 mois et qui ne seront pas vaccinés devront composer avec des conditions extrêmement difficiles, a prévenu Denis Massaglia, le président du Comité national olympique et sportif français. Il s'est entretenu en visioconférence avec le président du CIO, Thomas Barr, et a évoqué pour les sportifs non vaccinés une forme de quarantaine de quinzaine une fois sur place au Japon, où il faudra faire des tests matin et soir. La question de la vaccination des sportifs pour les JO de Tokyo doit être abordée demain lors de la commission exécutive du CIO qui encourage officiellement la vaccination des sportifs, mais ne peut l'imposer.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Bénin, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle du 11 avril, l'opposition semble plus divisée que jamais. La possibilité d'une candidature unique pour contrer le camp du président Patrice Talon semble désormais impossible, selon certains acteurs qui dénoncent des problèmes de personnes et qui ont aidé à fragiliser toutes les stratégies mises en place. Que faut-il attendre de l'opposition béninoise pour la présidentielle qui s'annonce? La réponse dans ce reportage de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Lorsque Patrice Talon prenait la tête du Bénin en tant que président de la République, le pays comptait une flopée de partis politiques se réclamant de l'opposition engagée pour l'animation de la vie politique. Mais les dissensions internes ont eu raison des plus grands. L'un des exemples les plus visibles en la matière est le parti de l'ex-président Nicéphore Soglo qui a explosé malgré sa détermination à le maintenir debout.
Je suis déçu par certains d'entre eux parce que là, c'est un manque total de respect. Un manque total de considération, un manque total aux règles qui régissent toute société familiale. C'est une honte.
Et que dire du parti de son successeur, le président Yahya Boné? Le parti a explosé sous le coup des luttes internes. Même le leader charismatique du parti n'a plus rien fait pour arrêter la saignée. L'actuel secrétaire général du parti, Paul Rompuy, a tout fait de minimiser l'étendue des dégâts.
Il n'existe qu'un seul parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir, mais nous on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
Après l'éclatement de ces deux grands partis politiques, l'opposition a vu venir le danger et a décidé de prendre ses responsabilités. Le mouvement de la résistance a vu le jour et réunit plusieurs partis de l'opposition. Leur rôle, travailler à l'alternance au sommet de l'État en 2021. Mais très tôt, des malaises se sont révélés poussant certains partis à se retiré du mouvement. Théophile Yarou des FCBE explique ici les raisons qui ont précipité l'éclatement de ce mouvement.
Depuis que nous avons mis en place la résistance, aucun mouvement coordonné n'a été organisé par cette résistance. Cette résistance s'est cantonnée dans des discours stériles. 3 ans d'opposition, 3 ans d'une organisation qui veut vraiment atteindre un objectif, ça suffit déjà pour faire une évaluation à mi-parcours.
Eugène Azatasso, ancien porte-parole du même parti, n'est pas de cet avis. Pour lui, le fait que la résistance soit un rassemblement de partis politiques suffit pour créer des divisions, mais pas au point de tout faire voler en éclats.
Nous sommes unis par le fait que la façon dont le pays est géré ne nous convient pas. Chacun est arrivé à cet objectif-là, de changer la gouvernance à la tête de notre pays par des chemins divers. Cela ne signifie pas du tout que l'on n'a pas cet objectif en commun.
Pour le président du parti MPL, Sabi Korogone, bon nombre de ceux qui se disent opposants prennent assez de sales dossiers et n'ont aucune force devant le président actuel. Faire front avec ceux-là est une façon de se tuer politiquement.
Tout le temps, ils ont été entretenus par celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il les connaît, il les maîtrise. Et ils ne peuvent rien contre lui. La seule couche de la société qui fait peur au régime actuel s'appelle la jeunesse, s'appelle les femmes.
Mais pour ceux qui restent encore membres du mouvement de la résistance, le combat reste entier et sera mené comme il le faut. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, maintes fois repoussée du fait de grèves dans l'enseignement, mais aussi et surtout de la crise sanitaire liée au coronavirus, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 est effective depuis hier, 25 janvier 2021. La première journée a été marquée par une leçon modèle sur le COVID-19 et les explications sur les mesures barrières. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de certains établissements scolaires de la capitale. Compte rendu de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est à cause de la maladie à coronavirus que la rentrée scolaire 2020-2021 a été retardée. Et c'est ce lundi 25 janvier 2021 que les enfants ont retrouvé le chemin de l'école.
Je m'appelle Awa Diallo. Je suis très contente et heureuse aujourd'hui à la rentrée. Très, très heureuse.
Je me nomme Massamou Touré. Je fais l'école Marie-Saint-Claire. Je suis fièrement content aujourd'hui pour cette reprise. Nous invitons tout le monde pour respecter les gestes barrières, que cette maladie-là existe vraiment.
Que les enfants sont revenus en masse, ils sont tous contents, ils sont ravis de répandre les cours. Ils sont en train de respecter les mesures barrières, et également ils ont poussé le lavage des mains et ils continuent également à respecter la distanciation.
Dans certains établissements scolaires, des dispositions ont été prises afin que les enfants et le personnel enseignant puissent respecter les mesures barrières. Et tous, Mohamed Ag Iknan, directeur du centre pédagogique de Ségou.
Dans toutes les écoles aujourd'hui, la première leçon modèle, c'est porte sur la pandémie et le COVID-19. Pour apprendre aux enfants d'abord ce que c'est la COVID-19, quelles sont les mesures de prévention. Les élèves aussi bien que les enseignants portent des masques et les kits de lavage des mains sont disponibles un peu partout. Nous espérons que les gens vont continuer à les observer. De Gofri, on a plusieurs communes qui sont où les écoles étaient fermées depuis. Il revient à l'État de trouver les moyens d'assurer la sécurité, de libérer les zones pour permettre un démarrage effectif de cours.
Dans certaines écoles publiques, il n'y avait aucun dispositif sanitaire. Adama Fomba, enseignant syndicaliste.
Malgré le report, le gouvernement n'a pas pu prendre toutes les dispositions nécessaires pour doter tous les États établissements publics et privés de moyens nécessaires vraiment pour protéger. Les gens sont partagés entre la joie de retrouver l'école, mais aussi les gens sont inquiets parce que les mesures nécessaires n'ont pas été prises par les autorités du Mali pour protéger et les apprenants et le personnel enseignant.
Sœur Denise Kodjo, proviseur du lycée Notre-Dame du Niger.
Nous avons une soixantaine d'encadreurs. Les élèves sont autour de 1600 pour l'instant. On n'a pas fini totalement les inscriptions, mais avec la liste d'orientation que nous avons reçu et puis l'ancien effectif que nous avions, ça fait autour de 2010. On a commencé dans toutes les classes avec la leçon modèle sur la COVID-19.
En cette journée de rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a sillonné 5 établissements à Bamako. Professeur Doulaye Konaté, ministre de l'Éducation nationale.
Cette ouverture des écoles est un véritable défi. Le défi, vous l'avez vu, la maladie est là, pour absolument en être conscient. Il est demandé à tous les acteurs de l'école, à tous nos partenaires, de s'engager pour justement gagner ce pari. Ce pari qui est de pouvoir continuer l'école malgré la maladie. Et je crois que c'est ce que tous les pays du monde essayent de faire.
La rentrée scolaire n'a pas été effective à Kati à cause des mouvements de grève des enseignants qui, depuis le mois de décembre, attendent leur salaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la pandémie de COVID-19, plus virulente que jamais en ce début d'année. Alors que 2 vaccins sont déjà lancés, leur lente distribution, la hausse alarmante du nombre de cas et la découverte de nouveaux variants semblent atténuer l'espoir que la maladie sera bientôt sous contrôle. Plusieurs pays, y compris en Afrique, ont réimposé des mesures de restriction draconiennes dans l'attente de vaccins. Avec nos invités, nous ferons le point sur la pandémie, les nouveaux variants du coronavirus et les vaccins. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Nigeria, le vice-président Yemi Osinbajo annonce plus d'engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse. Les jeunes de moins de 25 ans constituent 63% de la population nigériane, estimée à environ 214 millions d'habitants en 2020. Comment la jeunesse du Nigeria apprécie-t-elle les actions du gouvernement en sa faveur? Élément de réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Avec plus de 200 millions d'habitants en 2020, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des 10 pays les plus peuplés au monde. Sa population devrait doubler d'ici 2050. Cette forte croissance démographique pose de nombreux défis à ces pays en développement. L'un de ces défis majeurs est le développement de sa jeunesse, estimé à 63% de la population. Les données du Bureau national des statistiques révèlent que le taux de chômage au deuxième trimestre de 2020 était de 27,1%, ce qui indique qu'environ 21,7 millions de Nigériens sont sans emploi. En 2020 également, le taux de chômage des jeunes Nigériens était estimé à 14,2% selon l'Organisation internationale du travail. Beaucoup de jeunes n'oublient pas les promesses de campagne du président Muhammadu Buhari. Mokhtar Modibo est l'un d'eux.
Je sais qu'avant l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, il y avait beaucoup de promesses de campagne. Ils ont promis d'être inclusifs, qu'ils vont inclure les jeunes et entreprendre beaucoup de projets, notamment l'épanouissement des jeunes, entre autres. Mais la question que l'on se pose est de savoir s'il existe une feuille de route pour respecter cet engagement.
Le ministère fédéral de la jeunesse et du développement du sport a lancé en octobre dernier un fonds d'investissement de 75 millions de Naira, soit un peu plus de 160 millions d'euros pour la jeunesse, approuvé par le gouvernement fédéral. Le fonds devrait servir de catalyseur pour libérer le potentiel des jeunes et permettre à certains de créer des entreprises qui augmenteront le taux d'emploi. Suki Odabi est un avocat et activiste qui se bat pour la jeunesse nigériane.
Oui, le gouvernement essaie d'initier certains programmes pour accompagner et encourager les jeunes, mais à cause des problèmes de système et d'organisation, il manque encore l'impact et les résultats qu'on s'attendait. Par exemple, nous savons les services humanitaires en cours, mais il y a là aussi assez de plaintes.
Des journées de débat et de réflexion autour des questions du soutien de la jeunesse sont souvent organisées par la société civile et même les autorités fédérales avec les représentants des jeunes.
Nous devons avoir une initiative commune. Quelle est cette vision qui nous rassemble tous? Quelles sont ces idées dont nous les jeunes disposons et qui nous rassemblent autour de cette table pour parler d'inclusion, de justice et d'équité? En faisant cela, il y a des limites que nous devons prendre en considération.
Les manifestations des jeunes l'année dernière contre les brutalités policières étaient l'expression du mécontentement de la jeunesse nigériane contre la mauvaise gouvernance. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Promouvoir l'équité des genres, c'est l'objectif visé par un réseau d'associations dénommé Men Engage Togo qui a lancé depuis le 11 janvier dernier une campagne de sensibilisation axée sur la masculinité positive. Cette campagne qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois s'attaque aux stéréotypes afin de susciter une prise de conscience. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayla Osson.
Selon une étude réalisée par le réseau Men Engage Togo, il en ressort que les Togolais sont toujours dans la conception ancienne d'une masculinité dominante, c'est-à-dire la domination de l'homme sur la femme et sur son environnement social. Et donc, la féminité doit rester dans une position inférieure et soumise. Suite à ce constat, ce réseau s'engage dans une campagne dénommée « Suis-je un homme ?» Koku Edem Agboka, coordinateur de Men Engage Togo.
Si je ne suis pas violent, si je n'évolue pas dans une logique de domination, si je ne harcèle pas, par exemple, si je n'exerce pas forcément la force pour me faire entendre, si je m'occupe bien de mes enfants ensemble avec ma femme, si je fais les travaux ménagers comme ma femme, mes enfants, ne suis-je pas un homme?
Pour cette campagne, le réseau mise sur des visuels afin de pouvoir véhiculer son message. Elsa Mbenaba, consultante féministe.
On peut voir l'image de cet homme-là qui a porté son bébé au dos. Beaucoup se diront, bon, il aurait pu le porter à la main et tout, mais c'est encore plus joli et plus engageant de voir que c'est un homme qui a son bébé au dos. Nous avons également des visuels comme un homme en train de laver ou de donner le bain à son bébé, le bain traditionnel, ce qui est encore plus frappant. On peut voir aussi des hommes en train d'accompagner leur femme en consultation prénatale. Et le but, c'est de pouvoir dire aux hommes, même en faisant tout ça, vous restez des hommes.
La promotion de la masculinité positive est un pilier de développement social. Alors, la question se pose, qui est un homme?
On est un homme, même si on participe aux tâches ménagères, même si on respecte sa camarade femme, son collègue femme ou sa femme même à la maison, on reste toujours un homme quand on est proche de ses enfants.
Un homme, c'est la personne qui a compris que si la femme a les mêmes opportunités que moi. C'est avant tout une chance pour moi et que je suis dédouanée aussi d'un certain nombre de choses. En gros, l'homme, c'est la personne qui a compris que la femme, c'est son égale.
Et oui, à part les considérations physiologiques, la femme est l'égale de l'homme. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.